Frères et sœurs, il se trouve que j'ai à peine connu les années 1970, alors vous me pardonnerez parce que ma vision de ces années-là est peut-être un peu déformée. Pourtant, de là où je suis, il y a des dimanches où j'aurais bien aimé être prédicateur dans ces années-là, et en particulier dans certains milieux un peu en vogue à l'époque. En effet, si dans ces années un peu révolutionnaires, les églises commençaient déjà à se vider, la figure de Jésus, elle avait le vent en poupe, au moins sous un certain angle. C'était un certain Jésus qui était apprécié. Vous savez, c'était ce Jésus qui brise les codes, qui ne s'arrête pas aux lois rigides et qui prône la paix et l'amour. D'ailleurs, tourné en boucle en 1970, peut-être que je le rappelle à certains, une chanson de Johnny Hallyday dont le refrain disait « Jésus-Christ, Jésus-Christ est un hippie ». Les hippies qui cherchaient naguère à annexer Jésus pouvaient se réclamer de l'évangile de ce dimanche, de l'évangile des béatitudes. En effet, on y parle bien de paix, de justice, de douceur, et puis surtout on nous dit que Jésus les prononce sur la montagne. La montagne, là où Moïse avait reçu les commandements, Jésus reçoit et donne une loi nouvelle, non pas construite sur des prescriptions, mais sur un appel au bonheur. Jésus vient proclamer donc une ère de liberté par rapport à la loi. Alors, sans être hippie, je pense qu'ils étaient nombreux, ceux qui, à l'époque, pouvaient se réjouir de voir cette attitude de Jésus à l'égard des normes. Les béatitudes et la loi nouvelle qu'elles comportent étaient alors vues comme porteuses d'une authentique bonne nouvelle dans le monde dans lequel elles retentissaient. Aujourd'hui, il me semble que nos contemporains, et pas seulement les plus jeunes, verraient peut-être les choses un peu autrement. De fait, notre rapport à la norme a évolué. Sur le plan politique, d'abord, nous produisons de plus en plus de lois et de règlements pour encadrer absolument tous les aspects de notre vie, même les plus intimes. Sur le plan social, on voit refleurir les coachs de vie qui se font les promoteurs des rituels. Très étonnant de voir comment est-ce que le mot « rituel » a ressurgi ces derniers temps et a ressurgi de façon tout à fait positive. J'entendais parfois qu'on dit « Et vous, avez-vous votre rituel matinal ?» J'avais envie de dire « Oui, je prie les laudes le matin. » Apparemment, ce n'est pas tout à fait ça que les personnes ont en tête quand ils parlent de rituel. Vous savez, il s'agit de savoir ce qu'il faut faire pour rester ou devenir mince, sportif, bien dans son corps et dans sa tête. Et puis, sur le plan moral, c'est dans la mesure où vous donnez le plus de directives, même si ensuite elles ne sont pas respectées, que vous gagnez vos galons de respectabilité. Alors, loin de moi une volonté de poser ici un jugement sur une période ou sur une autre, mais je caricature effectivement à grands traits ces périodes, mais si on s'en tient à ces constats, on peut néanmoins dire que le monde d'il y a 50 ans, marqué par une morale sans doute encore un peu rigide, eh bien, pouvait recevoir cet évangile d'une libération des lois manifestée par les béatitudes comme tout à fait en consonance avec ses préoccupations. Dans le monde d'aujourd'hui, marqué par une perte d'à peu près tous les repères, on serait en manque de lois, y compris dans le domaine de notre pratique chrétienne. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Considérer que cet évangile des béatitudes qu'on vient d'entendre, évangile par excellence de la loi nouvelle et de la libération par rapport à une pratique scrupuleuse des commandements, n'aurait rien à dire au monde d'aujourd'hui? Alors, certainement pas. Mais il faut, dans le contexte qui est le nôtre, regarder cet évangile, d'une part, comme articulé au don de la loi avec ses prescriptions que Dieu nous a données, et puis, d'autre part, comme toujours, tenir sa nouveauté radicale. Je m'explique. Un chrétien ne peut pas se considérer comme étant un homme sans loi. Un chrétien, et tous ceux d'ailleurs qui prient les psaumes, comme nous les religieux, plusieurs fois par jour, nous le savons bien, nous pouvons faire entièrement nôtre la fascination de l'homme de l'Ancien Testament pour la loi de Dieu. « Étonnantes sont tes œuvres, toute mon âme le sait », lit-on dans les psaumes, comme pour exprimer ce bonheur, cette fascination que l'homme ressent devant la loi de Dieu qui se voit dans la nature, devant cette sagesse de Dieu qui transparaît dans le monde et qui manifeste l'ordonnancement qui existe dans toute chose. sans prescription véritablement explicite, cette sagesse, elle redit avec fermeté et avec force ce qui est justement cette source d'émerveillement. Tu respecteras la vie, choisis le chemin de la vie, ne t'en détourne pas, parce que le monde entier proclame que c'est là la voie que Dieu choisit pour toi. Mais il y a plus. Le chrétien peut reprendre aussi la fascination de l'homme de l'Ancien Testament pour la loi que Dieu a donnée à Moïse. « Ta loi fait mon plaisir », lit-on encore une fois et chante-t-on dans les psaumes. La loi que Dieu a révélée est bonne pour l'homme et aussi encore pour le chrétien, encore pour nous aujourd'hui. Parce qu'elle est ce pédagogue, elle est ce garant qui évite que nous nous égarions loin de Dieu. En effet, il faut parfois le rappeler aussi, notre vie présente nous engage. Notre vie présente peut nous couper définitivement de notre amitié avec Dieu si nous posons en conscience des mauvais choix. Et puis parfois, il faut le reconnaître, nous le savons tous, la complexité des situations auxquelles nous sommes confrontés ou le poids des sentiments qui nous envahissent ne nous permet pas toujours de réfléchir et de voir clair sur la bonne manière d'agir dans certaines situations. Alors là, oui, se référer à la loi de Dieu n'est pas une preuve de faiblesse, mais de réalisme. C'est la preuve d'une acceptation de nos limites auxquelles nous sommes tous confrontés et nous, chrétiens, ne sommes pas au-dessus des autres. Donc oui, la loi et ses préceptes sont aussi bonnes pour le chrétien. Non, il ne doit pas les rejeter. Peut-être qu'aujourd'hui, en rappeler quelques dimensions fondamentales n'est pas du tout un luxe. Pour protéger les plus vulnérables, pour oser redire aux personnes chahutées par des courants d'idées qui les laissent esclaves de leur passion, ta dignité d'enfant de Dieu t'interdit absolument de te comporter de la sorte. Pour guider des chrétiens balbutiants aussi sur le chemin de la foi, et on pourrait multiplier les exemples, oui, pour tout ça, la loi n'est pas à rejeter. Mes frères et sœurs, en aucun temps et en aucune époque, le chrétien ne peut ni ne doit oublier la nouveauté radicale des béatitudes, en aucun temps et en aucune époque. Parce que s'il le fait, il oublie, il perd en particulier ce qui fait son âme, ce qui fait son identité de chrétien, ce que le Christ lui a confié de plus précieux. Pourquoi ? Parce que d'abord, les béatitudes fixent le cap. Et le cap, c'est le bonheur de vivre en Dieu. Et pas cette satisfaction narcissique d'avoir coché la case d'une liste de commandements à respecter. Ce bonheur est celui de voir se dévoiler progressivement le visage de Dieu et notre propre visage. Ce bonheur des béatitudes est celui de voir que les masques que nous posons de manière plus ou moins sophistiquée sur nos visages doivent tomber si nous voulons vivre de la contemplation de Dieu. Et en cela, la première des béatitudes, heureux les pauvres de cœur, est la clé de toutes les autres. Vous savez, je crois que quiconque a aimé profondément le sait, la signature de l'amour, c'est la pauvreté. Parce que passer une phase de séduction, pouvoir se présenter les mains vides devant l'être aimé est la marque de l'amour. Savoir que l'on peut mettre à part tous les cadeaux et tous les artifices, et s'offrir pauvrement, avec rien d'autre à apporter que ce qu'on porte humblement en soi-même. Voilà le bonheur dont les lois et les rituels peuvent nous détourner si nous ne les laissons pas à leur juste place, si nous oublions que l'amour est la clé du bonheur, que la pauvreté est la clé de ce bonheur. Mais les béatitudes ne fixent pas juste un cap. Si elles sont si importantes pour le chrétien, si nous ne devons pas les oublier en tout temps, c'est parce qu'elles sont aussi une loi intérieure. Hier se sont ouvertes deux années où, dans l'ordre dominicain, nous fêtons tout spécialement saint Thomas d'Aquin, en un jubilé lié à l'anniversaire de sa mort et de sa canonisation. Cet immense théologien du XIIIe siècle est un de ceux qui a le plus souligné l'importance des béatitudes dans la loi nouvelle proclamée par le Christ. Alors, si vous le permettez, avant de terminer, je voudrais brièvement le citer, parce que saint Thomas dit à propos des béatitudes: ce discours ordonne les mouvements intérieurs de l'homme. Précisant qu'il s'agit là du signe de ce que le Christ vient nous apporter, il ajoute: la loi nouvelle est dans son principe essentiel une loi intérieure. C'est une loi de liberté, dit Thomas, qui fait que même les commandements ou prohibitions, nous les observons librement, en ce sens que nous les observons sous l'inspiration intérieure de la grâce. Ce ne sont pas là, frères et sœurs, des propos de circonstance qu'on pourrait piocher comme ça, par-ci, par-là, pour faire bien à la fin d'une homélie en citant Thomas d'Aquin. Mais c'est le cœur de sa morale, c'est le cœur de ce qu'il nous donne de sa lecture des évangiles et de ce qu'il a merveilleusement bien compris des béatitudes. Alors, frères et sœurs, les béatitudes ne sont pas une invitation à nous laisser pousser les cheveux, à jouer de la guitare en portant des chemises à fleurs. Elles sont la signature de notre comportement chrétien, qui, s'il a besoin de normes extérieures, ne peut jamais se satisfaire du simple respect de ces normes, quelles que soient les époques ou les situations où nous nous trouvons. Demandons donc dans cette Eucharistie la grâce d'entrer profondément dans cette loi de liberté que le Christ nous ouvre. Demandons aujourd'hui d'entendre pour nous cet appel pressant au bonheur. Demandons d'entendre pour nous le Christ nous dire à nous « Heureux es-tu ». Demandons d'entendre cet appel à la liberté véritable auquel le Christ nous appelle. Amen.